L'invitation et avec Madeleine, nous nous réjouissons de revoir des visages connus et de découvrir d'autres visages qui nous sont inconnus. Et puis, nous bénissons Dieu aussi pour l'instrument qu'il vous donne ici, ces locaux agréables, confortables, bien chauffés. Et puis, pour rester au ras des pâquerettes, très pratique et spirituel en même temps, je voudrais savoir à quelle heure vous terminez votre culte. Voilà, c'était pour savoir un peu le temps dont je dispose. D'accord. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Ceux qui ont mis un canard laqué à l'orange n'apprécieront pas. Voilà. Le thème, le titre de ce que je voudrais partager avec vous est le suivant, des racines et du zèle. Un autre titre, c'est « Imprégner notre esprit de la parole de Dieu ». Et vous trouverez, je laisserai à disposition de Jean-Luc, quelques photocopies d'un ou deux articles qui encouragent à la lecture systématique, à la méditation de la parole de Dieu. Puis si la chose est jugée valable, il en fera des photocopies pour les uns et les autres. Je voudrais citer une parole de Jérémie tout d'abord pour introduire ce que je partage. Elle se trouve au chapitre 22, ne cherchez pas dans vos Bibles, le verset 29. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple et lui dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel ». Et dans une autre traduction, « Ô pays, pays, oui, pays, écoute la parole que l'Éternel t'adresse ». Et c'est à son peuple d'Israël que Dieu dit ceci. Et j'ai pensé à une seconde parole tirée d'un psaume qui est un psaume qu'on peut intituler « Si mon peuple m'écoutait », psaume 81. Je cite « J'ai déchargé tes épaules du fardeau ». Dieu qui parle en direct à l'ensemble de son peuple, pas à un individu, mais à tout son peuple. « J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » C'est une allusion au temps de l'Égypte, de la servitude, de fabriquer des briques. Je poursuis le texte. « Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je suis venu pour te délivrer. Et je t'ai répondu du sein de l'orage et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. » Alors je t'ai dit, écoute mon peuple, je vais t'avertir. Et Dieu soupire en quelque sorte. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'aurais chez toi aucun autre Dieu, tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome au chapitre 30. C'est quelques mots que Moïse adresse au peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Il a quitté le désert et il va entrer dans un pays, on peut dire, où la civilisation est là, et il va être confronté à d'autres spiritualités. Deutéronome 30, je lis depuis le verset 11 jusqu'au verset 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ?» Cette parole de Dieu, au contraire, et c'est un texte qui concerne Israël dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, mais qui est utile et qui reste là aujourd'hui pour nous valable parce qu'il est cité dans Romains 10. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il y a bien longtemps, plusieurs siècles, Calvin disait déjà « La parole de Dieu n'est point donnée pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtil, mais pour réformer nos vies. Il ne s'agit pas pour nous de devenir bibliolâtres, mais de devenir et de rester riches de la parole de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu doit être une connaissance spirituelle, et elle ne va pas faire de nous des distributeurs de versets bibliques. Notre foi doit être alimentée. Je dis des choses de base qu'on a besoin d'entendre tout au long de notre vie. Notre foi doit devenir vertébrée, charpentée, consistante, cohérente, donc nourrie constamment par une lecture systématique de l'Écriture, une lecture intelligente. Et il faut le dire, nous ne sommes pas les premiers à lire et à essayer de bien comprendre la parole de Dieu. Et nous ne devons pas mépriser le fruit de la méditation, de la lecture systématique, de la prière, de la comparaison, de l'étude des langues que bien des personnes ont faites avant que nous soyons nés, les uns et les autres. Et où est toute cette, le fruit de leur travail, de leur lecture, etc. Eh bien, nous la trouvons dans des commentaires de la Bible. Réfléchissons. Quantité de personnes, et pendant des siècles, ont cherché à enraciner leur foi, à bien comprendre la parole de Dieu d'une manière équilibrée, dans son contexte, etc. Et le fruit de cela se trouve dans des dictionnaires bibliques, des commentaires bibliques qu'il nous faut bien lire au long des années aussi. Et j'ai une question, très simple. Si nous étions déportés, exilés à cause de notre foi, ce que des millions de croyants ont vécu et vivent encore aujourd'hui. Lisons Portes ouvertes et ce qui se passe en Corée du Nord et en bien d'autres pays. Si nous étions exilés et que nous puissions emporter 3 ouvrages, ce qui ne nous serait pas autorisé, hein, quels ouvrages prendriez-vous? Je ne vous demande pas de répondre publiquement à la question, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? Pour ma part, j'emporterais une Bible d'études, avec des notes. Je prendrais un commentaire général de la Bible, dans lequel on va trouver des commentaires sur les 66 livres de la Bible. Je prendrais celui du Nouveau Testament de MacDonald. Commentaire du disciple du Nouveau Testament, MacDonald, c'est plus nourrissant que McDo, hein, c'est pas ça, ok. Et puis je prendrai un commentaire sur l'épître de Paul aux Romains, parce que c'est ce livre qui contient, qui est plus que le squelette de la parole de Dieu, du message de Dieu. C'est la cathédrale de la foi, on appelle ainsi cet épître. Et je crois que la vie de trop de chrétiens est dirigé par les émotions, les tripes, les états d'âme, les sentiments. Et nous devons nous rappeler que ces choses-là nous sont données par Dieu pour enrichir et embellir notre vie, mais jamais pour la diriger. Jamais. Nous marchons, dit l'apôtre Paul, par la foi et non par la vue. Et la foi provient de la parole de Dieu. Eh bien, des maladies de l'âme proviennent d'une sous-alimentation spirituelle. Il y a famine, carence de certaines vitamines spirituelles, si vous voulez. Le célèbre évangéliste Moody disait ceci, « Le péché vous éloignera de la lecture de la Bible, la lecture de la Bible vous éloignera du péché. » Et ce même homme disait aussi, « Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, il y en a peu qu'il étudie. » Alors certains objecteront à une lecture de la Bible suivie, systématique, en disant « mais j'oublie presque tout ce que je lis ». Et quand on attrape quelques années, il y a plus de trous dans le fromage de la mémoire. Et on se dit « mais moi j'oublie presque tout ». Alors, on peut opposer à cet argument deux objections. La première est une question que je vous adresse. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé le premier dimanche du mois passé? Non. Vous m'inquiéteriez un peu si vous m'aviez répondu oui. À moins que vous ayez fait quelque chose d'absolument mémorable qui vous a rendu malade. Bon, mais ce repas a été utile et nécessaire pour renouveler notre corps, nos différentes facultés. Donc le bon sens vous dit quoi? La deuxième réponse est tirée de plusieurs exemples du Nouveau Testament. L'expérience de disciples du Seigneur Jésus. Vous savez, au moment de la résurrection de Jésus, il y avait deux femmes, parmi d'autres, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Et puis deux hommes, en vêtements resplendissants, des êtres célestes, leur apparaissent et leur annoncent que le Seigneur Jésus est ressuscité. Il n'est pas ici, leur dit-il. Et le texte ajoute, alors ces femmes se souvinrent des paroles du Seigneur. Jean 2, versets 16 et 17, Jésus dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et Jésus était avec ses disciples. Et le texte dit, ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Pour s'en souvenir, les disciples l'avaient lu. Ils l'avaient entendu, ils l'avaient mémorisé, mais ils l'avaient oublié, comme le repas d'il y a un mois. Mais devant une situation particulière, face à une situation particulière, le Saint-Esprit leur a rappelé quelque chose qu'ils avaient lu. Ils se souvinrent qu'il était écrit, et c'est une citation du psaume 69. Autre situation, Jean 2, 19 à 22, Jésus est en dialogue serré, tendu, avec une partie des autorités religieuses de Jérusalem. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs répondirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, tu le relèveras. Mais lui parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Il avait oublié. Et ça a pris vie au moment où le Christ leur est apparu ressuscité. Nous ne savons pas exactement à quel moment, ni en quelles circonstances, mais tilt, Jésus avait dit ça. Et le Saint-Esprit le leur a rappelé. Jean 12, verset 16, dernier exemple. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, comme nous quand on lit la Bible. Des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui il les avait faites. Ces choses étaient écrites et le sont toujours dans Zacharie 9. Pour que les disciples s'en souviennent, il fallait qu'ils aient lu cette parole, le prophète Zacharie. Ils n'avaient pas fait, si vous voulez, l'église buissonnière, les disciples. Ils avaient lu et entendu ces paroles, ils les avaient oubliées, mais dans certaines circonstances, l'Écriture a ouvert leur intelligence. Souvent, il nous faudra une crise, une épreuve, un désert, pour qu'ensuite nous prenions conscience que nos racines ne s'étendent pas là où elles devraient. Est-ce que vous connaissez l'arbre du Ténéré? C'est une enclave de 400 000 km², le désert du Ténéré, 4/5 de la France, dans un Sahara de 8 millions de km². Et c'est une des régions les plus ingrates du globe. Et tout le monde au Niger connaît l'incroyable histoire de l'arbre du Ténéré. Cet acacia radiana était le seul arbre présent dans cet immense désert. À ce titre, il était signalé sur toutes les cartes de géographie comme point de repère des caravaniers. En 1973, un camionneur ivre n'a pas pu éviter l'arbre. Dont la dépouille est soigneusement conservée sous un mausolée au Musée national du Niamey. Par quel miracle une graine avait-elle pu atteindre une région si aride pour y germer et donner croissance à l'arbre devenu célèbre et vénéré par tous les nomades ? Sa mort peu glorieuse aura au moins permis de soulever un coin du voile du mystère couvrant son histoire. Là où il se dressait fièrement, on a creusé mètre après mètre jusqu'à ce qu'on parvienne à l'extrémité de sa plus profonde racine. Et c'est à 33 mètres de profondeur que la fouille s'est arrêtée dans le lit d'un fleuve qui traversait le Ténéré il y a bien longtemps. L'illustration dit, si vous possédez une carte géographique du Ténéré, surtout ne supprimez pas le petit signe indiquant la présence de l'acacia. Pour ne pas tromper les voyageurs, l'arbre a été remplacé par une surprenante sculpture de métal ressemblant à un porte-manteau sur pied, à côté d'un puits et couvert de graffitis. Cette histoire étonnante nous interpelle. À plusieurs reprises, dans la Bible, l'homme cultivant une étroite relation avec Dieu, au travers de la parole de Dieu, est comparé à un arbre plongeant ses racines jusque dans un courant d'eau. Joseph, dit l'Écriture, est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Genèse 49, 22. Heureux l'homme, la femme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Psaume 1, puis Jérémie 17, tout de suite, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. » Alors, quel genre d'arbre sommes-nous? Les tempêtes et les sécheresses dans la vie chrétienne devraient et vont contribuer à nous enraciner plus profondément dans la parole de Dieu et dans une connaissance spirituelle renouvelée du Dieu de la parole pour résister au vent contraire de la vie. Je cite Parole vivante que je vous invite à acheter si vous ne l'avez pas. Paul écrit du fond de sa sombre prison à Rome. Il écrit aux chrétiens de Colosse, chapitre 2, versets 6 à 10. « Puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui, que les racines de votre être s'implante toujours plus profondément en lui, construisez toute votre vie intérieure sur lui, sur la personne de Christ, révélée dans les Écritures, pas sur nos états d'âme, nos émotions qui nous habitent, que nous utilisons, mais qui ne doivent pas, je le répète, diriger notre vie. Écrivant aux Éphésiens de la même prison, Éphésiens 3:17, l'apôtre dit « Que par votre foi, Christ puisse faire dans vos cœurs sa demeure permanente, alors solidement fondée sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, révélé par la parole, donné par la parole, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour de Christ. » J'ai une autre question. À qui est-il dit ceci? Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu apprendras. Et soin de répéter, marmonner, murmurer, redire, intégrer, enfin, mâcher, ruminer. Sans cesse, les paroles de ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, etc. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Ben vous savez qui c'est? C'est Josué, mais tu n'avais pas le droit de répondre, toi. Il y a un très beau passage, psaume 37. Je lis verset 30-31. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, dans sa mémoire spirituelle. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. C'est un beau passage. Et puis, je ne peux pas résister aussi de vous citer une promesse, un appel à la confiance adressé à un certain nombre de personnes, enfin à tout le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais Ésaïe 51, verset 7, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. » La justice, c'est le droit selon la parole de Dieu, c'est ce qui est juste selon la parole de Dieu. « Peuple, et Dieu parle à ceux qu'il désigne dans ce verset. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. » Vous voyez, ce n'est pas le quotient intellectuel qui est visé. C'est l'intelligence spirituelle, la mémoire spirituelle, la vie intérieure, la vie du Saint-Esprit qui va animer, donner du répondant, du solide à la parole de Dieu. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas le déshonneur de la part des hommes, ne tremblez pas d'être bafoué par eux. Jésus était la parole de Dieu en marche, la parole parfaite. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il a été bafoué. Il a été rejeté. Il n'a été compris, accepté que par peu de personnes. Est-ce que nous allons remporter plus de succès que le Seigneur? Non. On va suivre le même chemin. Alors il est important d'être nourri de la parole de Dieu. Je regarde l'horloge, ça va. Dans le Nouveau Testament, nous avons en quelque sorte 5 livres pour annoncer la repentance et la foi en Christ. Les 4 évangiles et le livre des Actes. Il nous en reste 22 qui sont adressés soit à des individus responsables d'église, collaborateurs de Paul, généralement à une église, voire certaines lettres destinées à circuler dans différentes églises. Nous avons 22 lettres pour nous faire croître après la nouvelle naissance. Physiquement, bien sûr, la naissance s'accompagne de douleurs et ça prend. Avec du recul, c'est les dames qui devraient parler, mais je veux dire un certain nombre d'heures de douleur. Mais voilà, la vie est donnée, elle est là. Et puis il va falloir croître tout le reste du temps, pendant des années. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. D'où l'importance de nous enraciner dans la parole de Dieu. Chacune des lettres, et je vais vous passer tout à l'heure au rétroprojecteur, une proposition de mots-clés, de phrases type, enfin de mots-clés de chacune des lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Et ces lettres sont écrites avec une intention précise. Et il y a un mot-clé. Quelquefois, on peut en trouver deux ou trois. Mais lorsque nous avons besoin d'être consolés, il y a une épître qui a pour thème la consolation. C'est la deuxième aux Corinthiens. Et puis, l'épître de l'Église, c'est l'épître aux Éphésiens. L'épître de Jésus-Christ, c'est l'épître aux Colossiens, etc., etc. Donc, nous devons aller à la découverte du message principal ou d'une phrase clé de chacune des épîtres. Je prends celle aux Éphésiens parce que c'est une épître extrêmement riche. On peut dire de cette épître que c'est l'épître de Jésus-Christ, je viens de le dire, mais il y a aussi une autre dominante, marcher en Christ. 7 fois, à 7 reprises, on va trouver ce verbe marcher. Et puis les lieux célestes, c'est aussi dans l'épître aux Éphésiens, ça revient à 5 reprises. Et puis on a les 7 colonnes de l'unité. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 7. Il n'y a pas que l'amour. L'amour s'accompagne toujours de vérité, la vérité doit être exprimée dans l'amour. Alors voilà, je voudrais que quelqu'un me prête son secours pour le rétroprojecteur. Et puis on va aller à la découverte, je laisserai là aussi une photocopie. Si vous jugez que c'est valable, vous pourrez voir avec Jean-Luc. Alors j'irai un peu rapidement.
Dans chacune des épîtres, ou la plupart d'entre elles, les auteurs inspirés commencent par dire ce que Dieu a fait, à exposer le conseil de Dieu, tout ce que Dieu a opéré. Et c'est seulement après avoir exposé tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu est, qu'il va ensuite donner des conseils pratiques. Il ne va pas commencer par dire « Faites ceci, ne faites pas cela. » Les apôtres vont commencer par dire « Regardez ce que Dieu a fait. Contemplez cela. Comprenez-le. Absorbez-le. Reposez-vous sur ce que Dieu a fait. Sur ce que Dieu est. Sur ce qu'il promet. » Et puis, seulement après, mettez-vous dans l'Épître aux Romains, il y a 12 chapitres. Pour exposer le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, le merveille de Dieu, 11 chapitres, avant qu'on arrive au 12e, qui nous exhorte à ceci et à cela. Et dans Éphésiens, il y a aussi 3 chapitres, au moins, qui commencent par nous dire ce que Dieu a fait. Et puis, il faut rester là pour un temps. Et c'est ça qui va donner au squelette de notre foi tout ce dont il a besoin. On aura, je dirais, de la matière dans notre vie pour avancer sur un fondement qui est posé. En Corinthiens, sanctifié en Christ. 2 Corinthiens, consolé en Christ. L'épître aux Galates, c'est la grande charte de la liberté en Jésus-Christ. J'ai dit, Éphésiens, c'est l'épître de l'Église qui nous parle du corps de Christ. Et c'est intéressant de voir que Paul est emprisonné. Je l'ai dit tout à l'heure, il a écrit du sein de sa prison, il était arrêté dans son. sont jaillis des épis d'une profondeur formidable. Et un thème, le thème principal de l'épître aux Philippiens, c'est la joie en Christ. Soyez joyeux en Christ. Est-ce que Paul est dans des circonstances joyeuses? Et absolument pas. Absolument pas. Il écrit ça. Colossiens, vous avez tout pleinement Christ. Notre espérance est concentrée, si vous voulez, dans l'épître aux Thessaloniciens. Puis, l'apôtre parle du fait qu'en Christ, nous sommes glorifiés. Et puis, la première Timothée, une épître qui souligne la fidélité à laquelle nous sommes appelés, fidélité en Christ. Deux Timothée récompensés en Christ. Une courte épître, c'est une illustration, c'est exemple en Christ. Philémon, transformé en Christ. Hébreu, 13 fois, je crois, revient le mot supérieur ou meilleur. Christ est supérieur à tout. C'est une épître qui nous aide à comprendre l'Ancien Testament. Et c'est une épître d'une importance très grande qui n'est pas facile à comprendre. Et on peut souvent, dans le monde chrétien, mal interpréter des passages qui nous paraissent terrifiants. Il faut toujours les lire dans leur contexte. Et pour ça, on a besoin d'un commentaire de la Bible. Tous, sans exception. Foi et œuvre en Christ, l'apôtre Jacques est un homme très direct, frère du Seigneur, il ne va pas sauter par quatre chemins pour lui parler. Et puis la première épître de Pierre est aussi à méditer profondément parce qu'aucun de nous n'échappe en tant que chrétien à la souffrance. Il y a les souffrances à cause de nos bêtises, à force d'en parler. Mais la souffrance à cause de notre appartenance à Christ est importante à comprendre. Les causes, les raisons pour lesquelles la souffrance résulte aussi de notre foi en Christ. Et puis l'épître du progrès, vous le savez déjà, parce que j'avance, hein, c'est la deuxième épître de Pierre. Progresser en Christ. Et puis s'aimer en Christ, la première de Jean, vérité, témoignage. Vérité, témoignage et hospitalité en Christ, la troisième épître de Jean. Et puis l'épître de Jude, nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Il y a là la fin d'épître qu'on appelle une doxologie, une parole de gloire, une parole glorieuse, une parole de grâce, qui nous dit que nous sommes gardés par Jésus-Christ. Et puis l'Apocalypse, eh bien, c'est la révélation et le retour de Jésus. Voilà, je vous laisserai une photocopie pour que vous puissiez, si vous voulez bien, aller un petit peu plus loin. Je crois que je vais m'arrêter, j'aurai d'autres choses à vous dire, mais ça suffit. Je montre simplement ces choses, vous ne pouvez pas le voir, mais ça s'intitule « Imprégner notre esprit de la parole de Dieu ». Et j'ai recueilli des textes de toutes sortes de personnes qui sont des hommes d'expérience et qui nous encouragent à nous enraciner. Et puis quelques lignes de Ralph Challis, qui a été un homme que Dieu a utilisé pour amener des milliers de personnes à Christ. Et c'est quelques lignes tirées certainement d'un des meilleurs bouquins qu'on a pour un nouveau converti, si tu veux aller loin. Et il nous exhorte à une lecture en un an de la Bible. Ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais j'ai vu qu'il est sorti la Bible en un an depuis quelques années. Je trouve ça épatant. Et puis passer quotidiennement du temps dans la parole de Dieu. Il y a un exemple, Proverbe 1, chapitre 1. Psaume 1, Proverbe 1, on peut par exemple, quand on est pris, quand on est un peu en panne de lecture systématique, eh bien, pourquoi ne pas lire par exemple le psaume du jour? Nous sommes le 6 aujourd'hui, et voilà, on n'a pas beaucoup de temps, ou on a envie de changer pour un temps de méthode de lire la Bible, eh bien, on peut très bien lire le psaume 6 et le chapitre 6 des Proverbes. Et si on lit cela pendant par exemple un mois,
on lit 5 psaumes par jour, comme il y en a 150, en 30 jours, on aura lu une fois le livre des psaumes. Et si on fait ça pendant une année, on aura lu 12 fois le livre des psaumes, et notre communication avec Dieu, c'est le livre de la relation verticale, le livre des psaumes, eh bien, notre louange va de plus en plus être fondée sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait. Et ça va au-delà de nos tripes et de nos émotions. Excusez-moi d'insister, mais notre vie doit être dirigée par la parole de Dieu, par notre foi dans la parole de Dieu. Ok ? Et alors, on peut lire parallèlement aussi un chapitre des Proverbes, il y en a 31, et aussi en un mois, on va lire tout le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes, c'est le livre de la relation horizontale. Elle nous apprend un peu à avoir du plomb dans la cervelle, dans les relations avec notre prochain. C'est la relation verticale. Voilà, écoutez, j'ai dit, pendant que j'ai la parole, eh bien, je suis le marchand du temple aujourd'hui. Vous pouvez prendre un peu de temps. J'ai ramené un certain nombre d'ouvrages que vous pouvez regarder. Si vous devez en acquérir un, essayez de trouver de la monnaie. J'en ai point. Vous faites un chèque au nom de la CLC. C'est en 3 lettres, etc. Mais prenez le temps de regarder cela. C'est pour vous. Et profitez. Puis si vous ne trouvez pas votre bonheur, allez à la CLC. C'est que quelques extraits là. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Et puis à tout à l'heure au fond de la salle.